j'ai prévu d'aller à ce conseil municipal. Je pensais que j'allais assister à un certain spectacle. Je m'en doutais, puisque il y avait eu tellement de remarques sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Je me suis dit, ça va être très intéressant. Donc, avec Christophe et Jean-Louis, nous avons été assister à ce conseil municipal pour avoir immédiatement l'information. Alors bon, au-delà du fait que ce qui avait été annoncé par la maire en exercice est retombé comme un soufflet, c'est le moins que l'on puisse dire, je dirais que ce conseil municipal, ça aurait été très intéressant pour moi de le filmer, et pas seulement d'avoir uniquement les audios, parce que dans le cadre du cours que je fais sur les collectivités territoriales et les sciences administratives, ça pourrait être véritablement un conseil municipal qui me serve pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, l'exemple contraire de ce que l'on ne fait pas normalement si on respecte les règles démocratiques, le pluralisme et bien entendu la répartition des pouvoirs entre les agents et les élus. Alors, ce conseil municipal et notamment cette deuxième partie sur laquelle moi je vais me pencher plus précisément, eh bien, quand je pense à ce conseil municipal, j'ai quelques mots qui me viennent à l'esprit, ahurissants, affligeants, surréalistes, car je dois dire qu'il y a énormément d'éléments qui dépassaient l'entendement. Alors, premier élément, et c'est lui qui se demande si, en fait, eh bien, Laurent Rey n'est pas le maire, pourquoi ? Eh bien, quand on est arrivé à la deuxième partie consacrée à ce conseil, enfin, à cette présentation de la stratégie de redressement, c'est Laurent Rey qui a présenté cette stratégie. Alors, il me semble qu'il y a un adjoint aux finances, M. Capel, il n'était pas là. Alors bon, il brillait par son absence, déjà, très étonnant, mais également, bien sûr, il y a une maire. C'est la maire qui fixe la politique, la ligne de conduite, le programme politique, et donc les conséquences qui en résultent. Donc Josette Bourdeux a été silencieuse, et c'est donc Laurent Rey qui a présenté la stratégie de redressement. Et alors là, je dois dire que j'ai été choquée. Heureusement, j'étais assise. Ça bouillait en moi. Alors, je suis respectueuse. Bien entendu, dans le public, on n'a pas à s'exprimer. Donc, je ne me suis pas exprimée, bien sûr. Mais quand j'ai entendu Laurent Rey, qui est directeur ressources, il n'est pas directeur général des services puisqu'il ne peut pas avoir ce titre. Donc, directeur ressources, donc un agent public, agent contractuel, dire qu'il promettait des larmes et du sang, promettre des larmes et du sang, mais comment, mais quelle légitimité démocratique ? Et même, alors c'est peut-être pour faire une facilité de langage, mais il faut choisir les formules, promettre du sang et des larmes. Mais c'est une expression mais qui pèse, mais comment les agents de ces collectivités, de cette collectivité territoriale, ne sont pas outrés et choqués. Ils promettent du sang et des larmes.
Il se prend pour chercher. Il se prend pour chercher.
Alors,
rien que ça.
Il promet du sang et des larmes. Et d'ailleurs, ici, peut-être, tout à l'heure, je tiens juste à préciser, dans la réponse qu'avait fait Josette Bourdeux à notre précédente conférence de presse, elle a indiqué qu'on s'en prenait à elle, donc elle a joué la victime, et également à son administration. Que nenni ! Au contraire, nous, notre volonté, c'est de défendre les intérêts de tous ces agents de cette commune de Lourdes, et également de ceux qui sont mutualisés maintenant avec cette grande agglomération. Et les deux personnes qui sont visées, c'est la maire de Lourdes et l'actuel directeur ressources, parce qu'ils commettent des actes qui nous semblent contraires, non légitimes, pour ne pas dire plus. Donc voilà, nous, notre intérêt, c'est justement de défendre ces agents, et j'avoue que cette formule, moi, m'a choquée, promettre du sang et des larmes. Alors, au-delà de cette présentation et cette prise de position d'un agent contractuel de surcroît, il y a autre chose qui a été mais vraiment hallucinant. C'est là ce qu'il a dit, qu'il avait demandé. Il avait demandé à l'agent de la direction départementale des finances publiques de venir présenter, lui, la stratégie devant le conseil municipal. Et il a dit, qu'il avait refusé et qu'il avait eu un veto de sa hiérarchie. Mais heureusement, mais bon sang, mais la libre administration des communes, on en fait quoi? Un agent public qui va demander à un représentant de l'État de venir faire la leçon aux élus locaux. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui ont de la déontologie, qui connaissent leur rôle et qui, bien sûr, refusent de venir se prêter à ce jeu de dupes. Et puis alors après, alors là aussi, mes bras m'en sont tombés. Quand a été présentée les mesures pour résorber la situation dans laquelle se trouve la ville de Lourdes et donc dans cet endettement, et notamment cet endettement structurel, et non pas lié uniquement à la conjoncture et notamment à la baisse des dotations, le FPIC, donc le Fonds de péréquation intercommunale, d'autant que ce sont des mesures que l'on connaît depuis longtemps. Et puis également, ces mesures, elles touchent toutes les communes, elles touchent également le département, la région, et que je sache, le département des Hautes-Pyrénées, avec à sa tête Michel Pélieu, ont pris la décision de ne pas, eux, augmenter les impôts, ne pas être dans cette logique-là, de faire attention à la masse salariale, etc. Exactement. Et donc, l'argument, c'est de dire « Ah oui, c'est très très dur, on doit supporter des décisions venant de l'État. » Et donc, comme ça a été dit en plus, décisions prises par la majorité qu'elle soutient et qu'elle a rappelé donc être de la même sensibilité de gauche. Alors, là où vraiment la situation est inquiétante, c'est... Bon, il y en a tellement d'éléments que, bien sûr, je vais prioriser. Je vais en prendre deux. Les éléments les plus importants que j'ai choisis pour illustrer le propos concernent les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement et la question de la taxe de séjour et notamment la gestion qui est faite de la politique touristique. Alors, s'agissant du budget annexe, des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement. Alors, il a été précisé par Laurent Rey que grâce à la situation excédentaire de ses budgets d'assainissement et de l'eau, la ville de Lourdes n'était pas en cessation de paiement. Ce sont ces mots. Hein. On n'est pas en cessation de paiement grâce à l'excédent que l'on prend des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement. Et alors là, il y a vraiment des choses qui nous font sursauter. Pourquoi ? Il a dit, et ça apparaît dans le tableau qui a été diffusé sur l'ambition de l'équipe municipale, il a rappelé que la loi NOTRe prévoit en 2020 que l'eau et l'assainissement seront transférés à la communauté d'agglomération. Et donc il dit, oui, la loi NOTRe ne nous aide pas, il y a ce transfert en 2020. Donc la loi NOTRe, je vous rappelle, elle date du 7 août 2015. Lorsque nous avons critiqué cette réforme et que nous avons indiqué que, d'après nous, il ne convenait pas d'aller vers la grande agglomération, mais plutôt de créer un grand pays de Lourdes, l'ancien pays de Lourdes, et ensuite s'élargir vers les intercommunalités des vallées, notamment de la vallée d'Argelès, pour avoir une politique économique, un développement tourné vers un tourisme plus large, pas seulement culturel, mais également culturel, tourné vers les montagnes, sportif, etc. On nous a dit, non, l'intérêt, c'est d'aller vers la grande agglomération. Et là, il nous dit, ah mince, en 2020, ce que l'on fait jusqu'à présent, c'est-à-dire éviter la cessation de paiement de la ville d'Alou, on ne pourra plus, parce que ça sera transféré. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Soit ils jouent la montre, ils se disent que la situation est tellement catastrophique qu'au moins ben, jusqu'en 2020, on va aller à la grande agglo parce qu'on va leur faire partager les dépenses. Et en 2020, on verra bien, surtout qu'il y a des nouvelles élections municipales. Voilà. Donc, comment peut-être qu'ils jouent la montre, mais j'avoue qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, alors là où c'est pire, c'est que les règles de la comptabilité publique interdisent d'utiliser les excédents des budgets annexes pour alimenter un budget général. Là, dans le document, j'ai notamment repris un rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur le Mercantour. Et pourquoi j'ai repris ça? Parce qu'il date de janvier 2017 et il est très clair. Il est très clair, il rappelle des règles, mais qui ne datent pas de janvier 2017, hein, des règles qui existent toujours dans la comptabilité publique, c'est que les dépenses des budgets annexes servent à alimenter les recettes des budgets annexes servent à alimenter les dépenses des budgets annexes. Et éventuellement, s'il y a un excédent de manière ponctuelle, on va pouvoir l'utiliser pour alimenter le budget général, mais de manière ponctuelle. Et c'est très clair, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les usagers des services publics, industriels et commerciaux alimente le budget général à la place du contribuable. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, vous verrez tout le détail, je ne rentre pas parce que c'est technique, mais ces documents pourront être diffusés. Et puis, donc, ceci, cette pratique qu'ils ont n'est pas normale, elle est irrégulière. D'ailleurs, il a même dit que le comptable leur avait expliqué qu'il faisait ici de la légèreté. Et alors, vous pourriez dire, mais pourquoi le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la ville de Lourdes n'a pas pointé ce problème? Je vous renvoie à la lecture de la page 24 de ce rapport. Les budgets annexes des services publics de l'eau et de l'assainissement. Un contrôle a été réalisé sur la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement, délégué au groupe Suez Lyonnaise des eaux, mais restreint aux éléments essentiels de gouvernance et d'évaluation de la performance. C'est-à-dire que ces points-là qui relèvent d'irrégularité sur le plan comptable ne relevaient pas de leur étude. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas pointé. C'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas pointé. Alors après, ça c'est le premier point sur les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement. Et puis alors après, il y a un autre sujet qui concerne le tourisme. Alors, là aussi, ça peut laisser rêveur, je dirais plus que, au-delà d'un rêve, c'est plus cauchemardesque, c'est qu'à un moment donné, Madame le maire a lu l'état des recommandations de la Chambre régionale des comptes et elle a indiqué ce qu'elle s'était engagée à réaliser. Et donc, dans ses recommandations, la Chambre régionale des comptes a indiqué que, bon, il y en a beaucoup, ça reste à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand elle a fait la lecture de ses recommandations, eh bien, apparemment, elle a sauté une ligne. Or, peut-être qu'elle était inattentive, une fraction de seconde. Et là, heureusement, M. Rebolo a dit, mais Madame Bourdeux, pourquoi vous oubliez de préciser là ce que vous indiquez, c'est-à-dire que vous allez augmenter la taxe de séjour. Pourquoi vous ne le dites pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a des hôteliers? Et alors là, je dois dire que ce qui est là aussi effarant, c'est que il est indiqué qu'elle augmente, d'abord qu'elle a fait passer la taxe de séjour au réel alors qu'avant c'était forfait, ce qui permet de booster les recettes fiscales, mais également qu'elle augmentera les tarifs de la taxe de séjour en 2018. Et alors là, je vous invite à lire ça. Donc c'est à la première page de sa réponse. Elle indique donc qu'elle va augmenter les recettes de la taxe de séjour dans la recommandation qui concerne veiller à l'amélioration de l'excédent brut de fonctionnement. Brut de fonctionnement. Donc, peut-être que Madame Bourdeux a oublié que l'Office de tourisme à Lourdes, dispose d'un statut d'établissement public industriel et commercial. Peut-être a-t-elle oublié que la taxe de séjour est une recette qui doit alimenter les dépenses de tourisme, notamment des dépenses liées à la fréquentation touristique. Alors, il est vrai que, par convention, il est possible pour une commune, une station touristique, c'est pas toutes les communes, une station touristique de demander par convention à l'office de tourisme EPIC de reverser une partie de recettes, si elles sont excédentaires, pour alimenter le budget général, mais uniquement dans la section investissement. En aucun cas, ça ne doit servir à payer du fonctionnement. En aucun cas. Il s'agit, là encore, d'une irrégularité. Et par ailleurs, là aussi, peut-être suis-je trop binaire. Peut-être que pour moi, il faut que les choses soient claires. C'est blanc ou c'est noir. Mais quand Josette Bourdeux a dit qu'il fallait aller vers la grande agglomération, son argumentation, c'est de dire le périmètre pertinent, le périmètre cohérent pour le développement, c'est la grande agglomération. Elle a dit ça. Très bien. Nous, nous ne pensons pas que ça soit le bon périmètre. Mais si on dit que c'est le bon périmètre, et également qu'on dit qu'on va vers la grande agglomération parce que la situation financière est catastrophique et qu'il faut à tout prix faire prendre en charge des dépenses par la grande agglomération, il faut que ça aille de même avec les recettes. Dans un mariage, on n'y va pas que pour les avantages. On doit y aller aussi pour assumer ce qui peut paraître difficile, et des concessions, il faut en faire.
Oui.
Quand la loi Montagne a été adoptée, elle a prévu qu'il était possible, sans, parce qu'avant il fallait que ça soit l'EPIC qui l'accepte, il est possible dorénavant qu'une commune s'oppose au transfert de la fiscalité liée à la taxe de séjour vers une intercommunalité. Et qu'a fait la ville de Lourdes? Alors, tant mieux pour Lourdes, mais est-ce qu'il est cohérent de dire le périmètre pertinent, c'est l'aglo, c'est comme ça qu'on va faire du développement économique, et dire ensuite, ok, je vous envoie toutes mes dépenses, mais par contre les recettes, je les garde. À un moment donné, il faut savoir être cohérent. Et alors là, justement, José a commencé en souhaitant les vœux. On est en début, on est toujours au mois de janvier, donc on a encore aujourd'hui l'occasion de souhaiter les vœux. Et puis également, le mois de janvier, c'est celui des résolutions, les bonnes résolutions. Et là, on a attendu le dernier moment, parce que bon, on a tous nos activités il n'était pas possible qu'on puisse se rencontrer tous les quatre avant, mais également aussi et surtout, on voulait voir si les bonnes résolutions allaient être prises. Parce que Madame Bourdeux, je l'ai entendue, elle dit « Oh, Lourdes est en faillite, je suis une femme de gauche, je m'intéresse à la ville de Lourdes, je veux protéger Lourdes, il faut aimer Lourdes. » Et alors là, je me dis, Madame Bourdeux, lorsqu'elle a été élue, parmi ses premières décisions, n'a-t-elle pas augmenté son indemnité en tant que maire par rapport à ce qu'avait l'ancien maire, M. Artiganov? Elle a augmenté son indemnité. Et là, je me dis, mais puisque Madame Bourdeux dit que la ville de Lourdes est en faillite, qu'elle ne pensait pas que c'était dans cet état-là? Mais elle le sait. On ne peut pas dire, je ne sais pas. Il y a le rapport, c'est écrit noir sur blanc. Et encore, lorsqu'il y aura un autre rapport de la Chambre régionale des comptes, à mon avis, on aura d'autres perles à venir. Mais quand elle dit tout ça, Lourdes est en faillite, je suis une femme de gauche, je suis là pour la vie de Lourdes. Eh bien, je lui dis, mais Madame Bourdeux, pourquoi vous ne prenez pas une bonne résolution? Baissez votre indemnité, ramenez votre indemnité au montant existant quand il y avait votre successeur, M. Artiganov. Voilà, baissez votre indemnité, c'est la bonne résolution que j'espère vous prendrez dans l'intérêt de nos contribuables. De vos contribuables lourdés, parce que...
Il faut toujours donner l'exemple.
Il faut donner l'exemple. Et c'est surtout que... Qu'est-ce qui est dit dans le rapport? Dans le rapport, la première des recommandations, c'est de baisser les charges de gestion. C'est quoi les charges de gestion? C'est notamment les dépenses de personnel. C'est les indemnités des élus. Donc, montrez l'exemple, baissez votre indemnité. Et nous vous en serons reconnaissants.
Très bien.